Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bon, tout le monde a déjà joué à un jeu vidéo, que ce soit des gros triple A sur PC ou à un jeu mobile genre Candy Crush. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la face sombre des jeux vidéo, leur monétisation. Le temps où un jeu coûtait forcément 40-50 balles est révolu depuis longtemps. Bon nombre de ces jeux sont désormais gratuits. Mais vous allez voir que certains de ces jeux se transforme en véritable machine à cash avec des pratiques très borderline que vous ne soupçonnez pas. Ils n'hésitent pas à utiliser la psychologie humaine et à mettre au point les meilleures ou les pires stratégies pour vous faire passer à la caisse à tout prix. Et vous allez voir, c'est maléfique.
Et cette plongée dans ce monde fabuleux des jeux gratuits, mais qui ils veulent ta thune finalement, commence le 22 décembre dernier, en tout cas de mon côté. Parce que ce jour-là, en fait, la Chine a annoncé de nouvelles restrictions pour lutter, et de nouvelles réglementations, pour lutter contre l'addiction aux jeux vidéo. Alors, c'est pas la première fois qu'ils ont fait ça. La première fois, c'était en 2019, où ils ont limité le temps de jeu pour les mineurs. Ils n'avaient pas le droit de jouer entre 22h et 8h. Après, en 2021, ils ont dit pas plus de 3 heures par semaine, ce qui est quand même assez assez restrictif, on va pas se le cacher. Et puis, il fallait s'enregistrer avec sa propre identité, donc avec une numéro de carte d'identité. Et c'était contrôlé via une base de données que contrôle l'État. Bon, ça a pas trop marché, parce qu'en fait, ils utilisaient pas mal de comptes soit de majeurs, soit ils utilisaient des sous-comptes des comptes de leurs parents comme on peut faire sur Netflix. Donc bon, ça
c'est-à-dire que les Chinois dérogent à la règle.
Oui.
C'est pas si évident.
Globalement, de ce que j'ai compris, en fait, ils ont fait une analyse sur les joueurs, sur les jeux qui se tournent sur Unity avec un ensemble de données anonymisées. Ils ont constaté que suivant les années, les stats avaient pas trop changé. Partout dans le monde, et donc ils se sont dit, bah, a priori, alors que le marché chinois est quand même un gros marché, donc ils se sont dit que a priori il y avait peut-être des gens qui contournaient un petit peu ces restrictions. Sauf que cette fois-ci, fin décembre, dans une fois 2023, c'est nettement plus violent pour l'industrie du jeu vidéo et encore plus du jeu vidéo en Chine, parce que il s'agit dans cette réglementation d'interdire aux jeux en ligne d'accorder des récompenses. Donc in-game, quand un joueur se connecte tous les jours, qui est très utilisé par un certain type de jeu, ou alors quand par exemple il dépense pour la première fois de l'argent dans un jeu, souvent il y a des grosses récompenses qui sont amenées avec. Pareil, c'est énormément utilisé dans les stratégies de certains jeux, et également il plafonne le chargement des comptes des joueurs. Bref, il y a vraiment une envie de restreindre les microtransactions, comme on les appelle, des jeux free to play, donc via ces microtransactions, et donc de réguler tous ces mécanismes. Qu'est-ce que ça, pourquoi je vous en parle, parce que bon, c'est juste une loi qui est un projet de loi en Chine. Résultat, le jour même, Tencent, c'est quand même, ils possèdent Riot Games et ils ont un peu moins de 50% dans Epic Games, donc c'est quand même sans doute une des plus grosses société de jeux vidéo au monde. D'ailleurs, Hardisk, on a fait une vidéo super intéressante, si ça vous intéresse. Ils ont perdu 10% en bourse le jour de l'annonce, ce qui est absolument phénoménal. Et NetEase, qui est un acteur du jeu vidéo un peu plus centré sur le marché chinois, 20% le jour de l'annonce, et je crois que les jours suivants, ça monte jusqu'à 25%. Donc c'est tellement violent que le gouvernement, ils ont dit « Non mais... c'est un projet de loi, on va peut-être revoir un peu le texte, on va étudier avec attention les retours, parce que en fait ça a eu un tel impact sur ces sociétés que en fait c'est pas forcément le bon calcul pour la Chine. Et d'ailleurs, un truc un peu rigolo pour se faire pardonner, ils ont approuvé le lancement de 105 jeux. En fait, il faut savoir que là-bas il y a une régulation qui doit valider tous les jeux qui sortent en Chine, ce qu'on n'a pas à nous, mais un peu comme au cinéma où tu dois avoir ton moins de 12, moins de 18, ils doivent valider tous les jeux. Et donc là, d'un coup, ils se disent, vas-y, on valide 105 jeux, Mais pourquoi les gens ils se sont dit ouais c'est de l'enfumage? Parmi ces 105 jeux, il y a des jeux qui n'existaient plus en fait. Les créateurs avaient mis la clé sous la porte entre le moment où ils avaient soumis leur jeu pour le marché chinois et maintenant. ils vont valider des jeux random quoi. Bref, pourquoi de tels impacts sur ces deux sociétés mastodontes de jeux vidéo en Chine? Et ben là, je l'ai déjà un tout petit peu dit, c'est à cause d'un type de jeu, les free-to-play. Les free-to-play, du coup, c'est des jeux gratuits, mais où, dedans, on va pouvoir effectuer des micro-transactions au fil du jeu, soit pour, par exemple, acheter des skins et embellir un petit peu son jeu, soit carrément pour avancer plus vite dans le jeu. Et
pay-to-win, finalement.
Et ça devient, finalement, un pay-to-win. Et donc, c'est un type de jeu qui a d'abord beaucoup percé en Corée du Sud et aussi pas mal sur les jeux mobiles et qui aujourd'hui est un peu présent partout dans le jeu vidéo, même sur les jeux PC, à tel point qu'en 2021 c'était 52% des revenus de l'industrie du jeu vidéo mondial.
Ah ouais.
Donc c'est plus de la moitié des revenus du jeu vidéo, c'est du free-to-play avec des microtransactions. Donc c'est vraiment le shift d'économie sur le jeu vidéo s'est fait ces 5-10 dernières années, c'est assez impressionnant.
Ce qui n'est pas si intuitif parce que
non,
tu te dis avant ils vendaient des jeux 60 balles pièce.
Maintenant c'est même 80 parfois.
Donc maintenant ça a augmenté, mais ça veut dire que le modèle free to play, ils ont des stratégies qui leur permettent de faire plus de 60 balles de moyenne par utilisateur.
C'est
ouais.
Or, moi, je n'ai jamais dépensé un centime en microtransactions de ma vie.
Également.
Donc,
non plus, mais
c'est très mystérieux.
Et c'est pour ça que moi, c'est un... Peut-être que certains connaissent un petit peu cet univers. Moi, vraiment, je suis plongé dans un univers que je connaissais pas et j'ai été surpris par plein de trucs comme ça en mode, mais comment c'est possible que déjà, ça représente 52%? Et en fait, il y a une question intéressante à se poser et c'est Linus qui se l'est posé, donc ce youtubeur canadien... dans ce podcast, évidemment, c'est finalement, est-ce que la Chine n'aurait pas raison cette fois-ci? Est-ce que réglementer les free-to-play par une réglementation, que ça soit nationale ou internationale, ben c'est pas une bonne idée. Et donc du coup, pour y répondre, j'ai voulu en fait en apprendre plus sur le fonctionnement des jeux free-to-play, et vous allez voir que sur certains jeux, les stratégies mises en place sont d'une perfidie. Mais vraiment, c'est même pas une stratégie, c'est une suite de consignes à suivre pour entuber les gens. Enfin, en tout cas, moi, je le vois un peu comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment le concept du free-to-play? Ben, je trouve que Jamie Cheng, qui est une fondatrice d'un studio de jeux vidéo, l'a très bien résumé par cette phrase « Ne faites pas payer les gens pour qu'ils s'amusent, amusez-les pour qu'ils payent ». Et je trouve que ça résume très bien la philosophie du free-to-play. Alors, pour faire vivre ce concept, il faut donc qu'à un moment, les joueurs soient prêts à payer dans le jeu. C'est ça, vraiment le goal d'un free-to-play, c'est qu'à un moment, le joueur sorte sa carte bleue. Pour ce faire, les studios de jeux vidéo ont embauché à l'appel des spécialistes en psychologie cognitive et vraiment des experts du sujet. Le but, c'est de... Ils les ont intégrés souvent dans les teams de UX, donc d'expérience utilisateur. Alors, il y a des gens experts en psychologie cognitive qui font ça très bien. D'ailleurs, il y en a une qui s'appelle Celia Oden, qui est française, je crois. C'est un peu une pionnière dans le milieu. Elle a travaillé sur Fortnite chez Epic Games. Donc, c'est super intéressant. Elle a sorti un livre qui en parle sur... ça s'appelle « Dans le cerveau d'un gamer ». Du gamer, donc c'est en gros comment on fait en sorte que l'interface par exemple soit super compréhensible tout de suite. Le petit truc en bas, il faut que ça soit le... Elle expliquait que par exemple il y avait c'était une icône de piège à loup. Et en fait, ça correspond à rien dans le jeu parce qu'il y a pas vraiment cet item de piège à loup. Mais en fait, il faut que le joueur comprenne très vite que c'est un piège. Donc en fait, c'est des trucs du X tout simplement qu'on peut avoir sur du site web. Et ils utilisent appliqué au gaming. Et en fait, c'est un métier qui est arrivé en force ces 10 dernières années et en fait qui est un peu vital pour tous les jeux. Sauf que parfois, ils le poussent à l'extrême pour en fait, au lieu que nous aider dans la compréhension de notre jeu et qu'on fasse ce qui est le plus intuitif possible, en fait, pour nous manipuler complètement et acheter des trucs qu'à la base, on s'en dit, jamais je mettrai un centime dans Candy Crush.
Où ça devient une perte de liberté, en gros.
C'est exactement.
Pas,
et en fait,
c'est pas pour ton bien, c'est vraiment juste pour te niquer.
Et en fait, leur but, c'est de lever les barrières des joueurs. Et de lever les barrières des joueurs et de garder son attention, qui est un concept très, très important. Moi, il y a un exemple, juste avant de continuer, qui j'ai trouvé super parlant. C'est l'exemple de Candy Crush. La société derrière, c'est King. Et ils ont déclaré en 2013 qu'ils allaient supprimer les pubs de Candy Crush. Candy Crush, en 2013, c'est le moment où ça explose et tout. C'est super étonnant comme annonce. Tu dis, bah, pourquoi ils suppriment les pubs? Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que ça représentait 10% en 2012 et 1% en 2013. Donc, on peut comprendre, OK, ils gagnent plus leur vie grâce aux microtransactions dans
Qu'est-ce
jeu.
Qu'est-ce qui représentait 1%, pardon?
Les pubs dans le jeu. Parce qu'en gros, il y avait des pubs dans Candy Crush qui ont affiché les plus moches des applications Android.
Ça représentait 10% du temps.
Du revenu.
Non, pardon.
Okay. 10% du revenu en 2012 et 1% en 2013. Donc, on peut se dire, OK, ils ont fait ça pour des raisons économiques.
Okay.
Mais en fait, ils ont fait ça surtout pour une autre raison, et c'est eux qui le disent. C'est dans le souci d'offrir une expérience de divertissement ininterrompue à notre réseau de joueurs fidèles. En gros, ce que ça veut dire cette phrase, c'est que c'est plus intéressant de garder un joueur captif que de l'envoyer vers une pub qui va te faire quitter le jeu, et donc déjà qui rend le jeu plus moche, et donc potentiellement qui va l'empêcher de rester sur le jeu et de mettre en place une microtransaction plus tard. Ils se sont dit, en fait, les pubs, même si ça nous rapporte un peu d'argent, ça nous dessert parce qu'il faut garder l'attention du joueur pour qu'à la fin, il paye. mais, comme je le disais, c'est cette économie de la microtransaction qui, potentiellement, a des vertus. Ça permet d'avoir des jeux gratuits. Parfois, ça va très, très, très loin. Bien plus loin que Fortnite, par exemple, qui, à côté, est un petit enfant de cœur. Et pourtant, ça brasse des milliards. Je vous souhaite la bienvenue dans ce monde que je ne connaissais absolument pas. C'est l'incroyable univers des gacha games. Et rien ne... Enfin, ça va être très jugeant ce que je dis, mais rien ne va dans ce délire. Alors, si, en vrai, je peux comprendre que ça peut être très amusant, admettons. Mais je vais vous expliquer d'où ça vient. Ça vient des gachapon. J'espère que je le prononce bien, qui est des petites machines à jouer dans des capsules que l'on trouve au Japon. Voilà, exactement. Ça s'appelle un gachapon. Et donc, ça vient de cette chose où vraiment tu mets une pièce, tu sais pas ce que tu vas avoir. C'est un peu de la loterie pour enfants, enfin pas que pour enfants, mais pour...
Oui, comme on peut le voir dans ce...
Voilà, mais ça je crois que c'est une vidéo d'une youtubeuse japonaise, il me semble, qui fait... un tour de les 100 meilleurs gachapon du Japon ou de Tokyo. Ça, c'est la première caractéristique. Donc ça vient déjà d'un jeu d'argent, en fait, bien que très gamifié. Deuxièmement, les gachagames, souvent, ça suit l'histoire d'un animé, par exemple Naruto ou Dragon Ball Z. Et le but de ce jeu, alors ça suit l'histoire d'un animé, et puis c'est souvent à base d'invocations de héros. Je ne sais pas si vous voyez un peu, mais là... on invoque des nouvelles héros, des nouvelles cartes pour pouvoir battre, souvent dans un jeu de combat. Et en fait, le but de ce jeu, c'est qu'on peut y jouer absolument partout, un peu comme Candy Crush, parfois même en faisant autre chose, par exemple en regardant une série, et que le joueur ait tout le temps la sensation d'être récompensé. Mais genre tout le temps. ou alors dès qu'il y a un petit... Parfois tu crées un petit don en mode « Oh zut, le jeu il va m'envoyer, hop là t'es récompensé !» Vraiment, le but d'un gacha game, c'est ça. Et sa dernière caractéristique phare, et après je vais rentrer dans les stratégies de comment faire un bon gacha game, c'est un peu son aspect communautaire. Parce que, ben voilà, si il y a... toute une foule de joueurs qui se regroupent sur ce même gacha game, tu peux capter un public très à même de s'investir dans ce jeu et donc d'effectuer des microtransactions. Pour un peu mieux comprendre, parce que là c'est potentiellement un peu vague, j'ai pris un exemple d'un gacha game assez connu, mais que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle Daikon Battle. Je sais pas si ça vous parle. Vous en avez déjà entendu parler ou?
Non.
J'ai dû voir une affiche, mais.
Ok. Eh ben, c'est un gacha sur l'univers de Dragon Ball Z. Et donc, c'est un jeu mobile de combat avec des personnages, des classes, comme beaucoup de jeux vidéo mobiles. Et voilà, où on peut gagner des objets virtuels, mais qu'on tire au sort, un peu comme un gachapon. On lance un peu comme dans FIFA, pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est Kameto qui joue. À Daikon Battle, et donc on peut acheter des récompenses ou potentiellement en avoir gratuitement, et on sait pas ce qu'on va avoir derrière, et t'as fait des objets, etc. Donc il y a un aspect de loterie qu'on retrouve dans Gachapon. Et alors, c'est pas très récent. Il est plutôt en fin de vie et c'est intéressant de le notifier parce que vous allez voir que c'est limite dans la stratégie des jeux qui, des éditeurs qui font ce type de jeu. C'est qu'en fait, la durée de vie de ce jeu n'est pas illimitée. Mais j'y reviendrai juste après. Et ce qui est super intéressant sur ce jeu, c'est que je suis tombé sur la vidéo d'un youtubeur français qui s'appelle Crane et qui lui a pu parler à un game designer qui est très au fait de des gacha games et de comment fonctionne un gacha game. Et en fait, à l'écouter, retranscrire les paroles de ce game designer, c'est autant passionnant que flippant ou perfide. Et donc, vous vous en doutez bien, tout est fait pour que vous dépensiez de l'argent sur le jeu, un max d'argent, même si à la base, vous n'en aviez pas du tout l'envie. Comment les gacha games sont faits? Eh bien, elles sont faites en 5 étapes. Et si vous suivez ces 5 étapes, vous allez faire un super gacha game. Non, la première étape, c'est que le joueur accède au jeu très rapidement, sans friction. Il télécharge, directement il peut jouer et il sait directement ce qu'il faut faire parce que c'est pas compliqué, t'as pas 3 pages de manuel, t'as pas une campagne, un didacticiel, non. Faut que ça soit direct, gratuit et sans friction et tu peux jouer instantanément. Deuxième étape, c'est la possibilité de jouer tout de suite pas mal et de level up très rapidement. Donc en fait, tu vas avoir une évolution qui est au début très rapide. Donc c'est comme la courbe de Dunning Kruger, hein, c'est au début. Non mais c'est vrai, c'est et
faut que t'aies l'impression de devenir fort vite.
Exactement, et sans te lasser surtout. Faut qu'il y ait toujours des nouveautés, etc. Donc ça c'est on en est au début du jeu, de la durée de vie du jeu. C'est les deux premières étapes. La troisième étape, ils appellent ça, et c'est un peu l'étape charnière, c'est le time to go. C'est-à-dire que à ce moment-là, de façon prévue par l'éditeur et le studio du jeu vidéo, il faut paradoxalement que le joueur ait envie d'arrêter le jeu. Et il le force à un peu à arrêter le jeu, par exemple en nécessitant plus de points, et il n'a pas assez de points. Donc du coup, il faut qu'il attende, ou en passant par des phases de jeu où il n'y a plus trop de nouveaux contenus. Donc ça l'ennuie un peu. Il crée vraiment ce truc de « Ah, je suis un peu frustré !» par le jeu à ce moment-là. Vraiment, le but, c'est de créer une frustration à ce moment-là. Et c'est vraiment dans les 5 commandements d'un gacha game,
c'est nécessaire.
C'est nécessaire. Il y a un plateau, le joueur, il se fait chier un peu. Pourquoi il fait ça? Pour mettre en place la quatrième étape, qui s'appelle le return hook, donc le crochet de rappel, on pourrait dire. Et là, quelques temps après, du coup, t'arrives avec des nouveaux événements. Et en fait, pourquoi ils ont créé la frustration? C'est qu'en fait, une fois que t'as ça, et ben en fait, t'es sûr que ça s'intègre dans ton quotidien. Que à partir de ce moment-là, ce jeu, potentiellement, tu vas vraiment l'ouvrir tous les jours et qu'il est dans ton quotidien. Une fois, ça t'a créé de la frustration de pas pouvoir avancer comme tu voulais. Finalement...
Et le jeu est de lui-même a débloqué la capacité à venir te chercher là où t'es pour te ramener sur le jeu.
Exactement. Et en fait, à partir de ce moment-là, si tu n'y vas pas, et ben c'est ça qui te crée la frustration. Donc en fait, tu crées une première frustration artificielle pour que derrière
la combler.
La combler par tu vas sur le jeu. Déjà, c'est
super contre-intuitif, je trouve.
Ouais.
Mais c'est, apparemment, c'est comme Tinder qui est vraiment aussi basé sur ce principe-là de te renvoyer de te récompenser après t'avoir frustré. Enfin, bon.
Ah oui,
dit le chat.
Ah oui, sur en mettant des profils en avant, plus ou moins des profils en avant.
Exactement, il te push à une audience. Enfin, il te push à plus de profils après avoir fait exprès de te montrer à personne. Jusqu'à ce que. Et pour réobtenir. Bon, alors, je ne veux pas spoiler.
Non, coup, t'inquiète.
le problème, c'est que ça spoil okay. Un peu la suite.
Mais donc, du coup, la cinquième et dernière étape que ces jeux attendent. Alors, dans le type de Dokken Battle, ils appellent ça amener à l'invocation. Parce qu'en fait, tu peux invoquer des nouveaux héros. Et en fait, c'est ce qui est typiquement assez souvent payant si tu veux des bons héros et des belles cartes. Et donc. Tu vas potentiellement être amené à payer à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que en faisant cette analyse, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas un très bon gameplay, les gacha games. C'est il y aurait plein de choses pour que tu t'amuses mieux et plus efficacement. Et en fait, ce qui m'a retourné le cerveau, c'est que le game designer, il disait, en gros, en substance. Que c'est si pour avoir un bon gacha game, il faut pas que le gameplay soit incroyable, parce que sinon typiquement t'as créé une frustration à un moment où tu devais pas. Et par exemple au début, il faut qu'il farme beaucoup, pas mal de temps. Ça peut être un peu chiant. Un bon gameplay de jeu vidéo que tu payes, il ferait pas ça. Parce qu'il va pas te passer 3 jours à farmer comme un porc. Je dis 3 jours, mais j'aurais pu dire plus ou moins. Et donc, en fait, c'est pas un gameplay très satisfaisant pour le joueur, mais c'est un type de gameplay, grâce à ces 5 étapes, qui peut amener le joueur à potentiellement effectuer sa première transaction.
Donc, ouais, il faut que le jeu soit pas fou. Sinon, la courbe de la récompense n'est pas bien respectée.
Exactement. Tu as super bien résumé.
C'est tellement bizarre.
Attends, parce que du coup, en fait, ce que tu dis, c'est que après, tu vas être prêt à payer.
Bah, si tu veux revivre.
Améliorer ton expérience.
En fait, le but ultime de ces jeux de Gacha Game, quand tu les développes, évidemment, c'est de faire passer la barrière à un joueur. Tu es un joueur gratuit et tu ne payes pas ton jeu, à tu as effectué ta première microtransaction. C'est tout l'enjeu de tous ces jeux. C'est vraiment, tu ne payes rien à tu as payé une fois. Même si c'est 99 centimes. Et souvent, c'est la première fois que tu payes, c'est pas beaucoup plus. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'une fois que tu as payé 99 centimes, les barrières derrière sautent les unes après les autres. Parce que en fait, ils font en sorte que pour 99 centimes, tu as eu un résultat insane. Beaucoup trop pour ce que ça t'a coûté. En gros, là, vraiment, ils t'ont rincé la première fois. Ils t'ont 99 centimes, ils t'ont mis des étoiles dans les yeux, tout ce que t'as pris en loterie, c'était des dingueries et tout machin.
Ah, mais ils modifient les probabilités des cadeaux.
Évidemment,
ils
modifient. Évidemment. Ah non, mais tu crois qu'ils ont une race? Et donc, en fait, la première fois, c'est 99 centimes, puis après, le pack d'après, c'est 2. Puis toi. Puis 4. Il y en a même qui pensent qu'il y a des algos qui détectent tes habitudes de dépenses du joueur pour toujours se faire passer, se calquer et un tout petit peu plus.
Ouais.
En mode, il est habitué à payer 2 euros. Ah, 2,50 euros, potentiellement, ouais. Ça peut passer. Alors ça, je sais que c'est pas tous les jeux qui font ça. Mais vraiment, le but, c'est de faire augmenter un peu le panier moyen, comme on pourrait dire. Et en fait, ce procédé a fait 2 choses. C'est que déjà, t'as lié ta carte bleue au jeu. Bon, c'est un premier truc très pratique. Mais surtout, qu'en fait, ils ont analysé que le fait d'avoir payé une fois, ça change complètement ton procédé psychologique, en fait. C'est le premier achat, c'est le plus important, parce que derrière, tu as débloqué le fait que tu as déjà acheté et que potentiellement, tu vas racheter derrière.
Bah, y a aussi que tu as commencé à... Je sais pas, c'est pas une grosse somme, tu vois, 99 centimes par exemple, mais tu as commencé à investir dans le jeu, du coup, tu te dis...
Tant qu'à faire, c'est bon là, j'ai choisi ce jeu.
Ça.
Les autres, je mets rien, mais sur celui-là, c'est mon jeu, donc je mets de l'argent.
Ouais. Mm. Et d'ailleurs, c'est très marrant, le youtubeur dont il parlait de ça, il disait qu'une des solutions pour s'en prémunir, pour lui, qui était un fan de Gacha Game, tu vois, en vrai, c'est des jeux qui peuvent te faire kiffer, c'était d'en jouer à plusieurs. Alors ça marche pas avec tout le monde, mais il disait, en fait, comme ça, tu t'attaches moins à un, et si t'as la déception dans l'autre, t'auras potentiellement moins de déception dans un. Ouais, j'ai trouvé la réflexion super intéressante.
Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée.
En fait, c'est le principe du biais de cohérence, si je dis pas de bêtises, qui te pousse comme ça à partir du moment où t'as fait baisser tomber le premier mur, à être cohérent vis-à-vis de tes actions précédentes. Donc à partir du moment où t'as dit, ok, ouais, à partir du moment où je m'autorise à payer 99 centimes, toutes les fois prochaines seront beaucoup, beaucoup plus acceptables parce qu'elles sont cohérentes vis-à-vis de ce que t'as fait.
Ouais. Alors j'ai plus le nom en tête du biais, mais s'ils veulent. Non, mais du coup t'es sûr de c'est ça.
Oui, oui, à peu près.
Okay. Et donc du coup, en fait, c'est ce que la loi chinoise voulait interdire à la base. C'était vraiment ce premier achat, que tu puisses avoir des récompenses complètement insane. Et la deuxième qu'ils veulent t'interdire, c'est un mécanisme dont j'ai un peu moins parlé, c'est que t'as des récompenses si tu te connectes tous les jours. Mais si tu loupes une journée, eh ben tu redescends à zéro. Et donc par exemple, s'il faut que tu te connectes 150 jours d'affilée pour avoir une récompense de fou, ben, en fait ça incite vachement à ça. Et la loi chinoise voulait empêcher ça. Et donc, en fait, je vous ai écrit l'étape les plus importantes, mais en fait, il y a plein de petites méthodes comme ça qui sont mises en place dans un gacha game. Notamment le fait qu'ils font un fin mélange entre... Ils te quand même gardent une chance en mode tu peux avoir ce que tu vas payer et gratuitement. Et de temps en temps, ils t'en donnent un. Pour quand même que tu gardes un peu la foi dans le jeu et de se dire ah en fait le jeu il est quand même coûte au compte-goutte, on va te donner une carte chouette sans avoir payé, mais en réalité ce qui est codé derrière, c'est que si tu ne payes pas, et ben tu ne pourras jamais gagner contre en tout cas sur la durée, contre ceux qui payent. Et pour donner un petit peu de chiffres et de thunes, le mec dans sa vidéo disait que par exemple pour avoir une carte assez classique et bonne, il fallait miser, fallait avoir mis dans le jeu 300 ou 400 dollars en moyenne dans le jeu. Et pour avoir une carte légendaire, alors là je le cite, hein, vraiment je lui fais confiance, c'était 2500 à 3000 euros en moyenne pour avoir une carte légendaire sur Dokken Battle. Et tu vois, moi qui connaissais pas cet univers, quand j'ai vu ça,
mais c'est pour ça qu'en fait ils sont quand même profitables, même s'il y a des gens qui vont jamais payer comme nous. Enfin, ce que vous avez dit au début de l'émission, c'est que vous avez jamais payé, moi non plus. Mais c'est parce qu'en fait, à côté de ça, il y a des gens qui mettent des sommes.
Toutes leurs économies là-dedans.
Incroyable, quoi.
Exactement. Et en fait, est-ce que ça marche ou pas? Eh ben, tu l'as exactement dit. En fait, dans ces jeux, alors, tous jeux confondus, pas uniquement les gacha games, mais tous les free to play confondus, il y a souvent entre 5 et 10% seulement des joueurs qui payent. Mais en fait, les joueurs qui payent beaucoup, qu'on appelle les baleines, c'est ceux qui financent le jeu.
Ouais, c'est fou.
Et en fait, le but de ces sociétés qui montent des gacha games, c'est de créer un super fan game, donc un jeu à baleines. Et c'est grâce à ces baleines qu'ils vont financer le jeu. Et c'est pour ça que c'est impossible de rivaliser avec les baleines dans le jeu, parce que c'est eux qui tiennent en vie la finance du jeu.
C'est des vrais clients, en fait.
Et ouais. Même que j'ai entendu parler d'une histoire qui disait que un jour, il y a un seul jeu. Ils ont testé un jeu. Ils l'ont mis pas partout dans le monde, mais dans certains pays. Et il a été financé par un seul type qui a mis 50 000 dollars. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est comme si le mec, il avait racheté le studio, quoi.
En fait, moi, ce que je trouve.
C'était un petit jeu, hein. C'était pas un jeu très populaire.
C'est terrible. On pourrait se dire, probablement que la personne qui a mis 50 000 balles, c'est qu'elle roule sur l'or et c'est un millionnaire. Alors, oui, dans ce cas-là, un peu, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très probable énormément de paniers très élevés ne correspondent pas du tout à des revenus très élevés, et comme on peut le voir au casino ou dans tous les trucs addictifs ou de la drogue, etc., en réalité tu peux te ruiner, mais te ruiner sans avoir du tout les moyens d'encaisser ces microtransactions.
Et en fait, ça a tous les principes.
C'est macro-transactions pour le coup.
Ouais, c'est micro-transactions qui deviennent macro-transactions. Et en fait, c'est complètement des principes de casino, sauf que c'est pas réglementé comme le casino l'est quand même de façon.
J'allais dire, en fait, c'est. Non. La cible, en plus, c'est des gens qui potentiellement ont besoin de freins. Enfin.
Ouais.
Qui auraient besoin, je pense, de freins, comme exactement dans les casinos où il y a. D'ailleurs, dans les casinos,
des machines à sous, des choses comme ça. Quoi.
Ouais, mais il y a pas vraiment de frein, en fait, pour les gens qui.
Oh non, ils enlèvent les horloges dans les casinos, donc.
Ouais. Non,
mais par exemple, moi, j'ai traîné sur Reddit et il y a des témoignages de gens qui disent qu'ils ont mis plus de 200 000 dollars dans un jeu, dans un gacha game, quoi, dans un jeu comme ça. Quoi.
Ah, mais t'imagines.
200 000 dollars, c'est le prix d'une maison.
Ouais.
C'est enfin encore une fois, hein, moi, peut-être il y en a qui découvrent pas, mais moi qui découvre, je trouve ça absolument dingue.
Dingue. Et c'est potentiellement facile de juger en mode pourquoi prendre des décisions irrationnelles, mais en fait on ne juge pas quelqu'un de malade, genre c'est finalement c'est des procédés qui viennent se brancher directement sur ton cerveau, en fait.
Et en fait
donc, mais même quand je pense, pour des gens qui sont potentiellement victimes de ça, commencer par considérer que potentiellement c'est un comportement qui n'est pas normal, entre guillemets, et qu'il faut traiter, genre, et potentiellement demander de l'aide et tout, ça peut être pas bête, parce que vous êtes tout, en fait, faut se dire que vous êtes tout seul face à des armées de psychologues.
Oui, ouais, ouais, exactement.
Si vous arrivez pas à arrêter, etc., tout va bien, c'est normal, potentiellement, c'est pas bête de se faire aider, quoi.
Ouais, et en fait, face à une machine tellement sophistiquée, enfin, c'est vraiment, c'est David contre Goliath, quoi. Et du coup, ce youtubeur fan de Gacha Game, en vrai, il donnait quelques astuces pour essayer de s'en préserver. Alors, il y en a plein, mais il y en a une. Il disait que tu peux contacter Google, parce qu'évidemment, Google et Apple récupèrent 30% de toutes ces transactions. Ah, ils se font des couillons d'or.
Sur les 50 000 balles, en fait, il y en a 15K qui sont partis chez Apple, quoi.
Ouais. C'est fou. Alors, à leur échelle, c'est peut-être pas énorme, mais. Ouais. Et en fait, il disait qu'un jour, où il a complètement craqué, voilà, il s'en est rendu compte qu'il a fait des bêtises et tout, il a contacté Google pour savoir s'il pouvait pas se faire rembourser. En expliquant, il le raconte dans sa vidéo pour ceux que ça intéresse, mais en expliquant, vraiment la vérité, j'ai pas su me contrôler et tout, je suis un youtubeur, machin, il a expliqué son... Et en fait, il disait, ben, on sait pas, il a réussi à être remboursé.
Ah ouais? Ah.
Ouais. Et en fait, ça arrive qu'ils remboursent. Donc, tu peux appeler Google. Et c'est pas obligé. Ils le feront pas forcément. Ouais. Ils peuvent aussi te supprimer l'accès au jeu, ce qui paraît cohérent, quoi. Ouais. Mais tu peux potentiellement... Tout n'est pas terminé dans ce monde. Ouais. Il y a quand même parfois quelques mécanismes de sécurité où ben voilà, tu peux potentiellement... Faut pas forcément compter
après,
dessus.
Après, si ça se trouve, c'est un YouTuber, donc il a une audience. Donc
exactement.
Il faut foutre la merde.
Oui, non, il a tout expliqué. Non, mais voilà. Donc,
Et du coup, c'est par intérêt. C'est possible.
Mais je trouve intéressant qu'il donne pas que cet exemple. Il donne plusieurs exemples de comment arriver
surtout
à...
Tous les gachas, tu peux te faire rembourser. Tous.
Ah ouais? C'est dans le chat?
Eh ben, c'est une info-chat, mais à prendre avec les pincettes d'une info-chat, mais c'est intéressant. Pardon.
Mais non, mais voilà. Et du coup, j'ai pas cité toutes les petites techniques, mais évidemment, le fait d'utiliser de l'argent virtuel plutôt que du vrai argent, tu le convertis d'abord en argent virtuel dans le jeu.
En fait, tu fais un fois 800 ou un truc comme ça, et hop, voilà. Tu perds toute la notion de...
Et tu perds la notion, comme au casino, de ce que te coûte réellement, ce que t'es... en train d'acheter, le fait de mélanger, de mettre au compte-goutte un petit peu de chance, et puis aussi le fait de créer une communauté avec les youtubeurs, mais pas que, hein, où en fait les baleines et ceux qui payent sont les good guys.
Ouais.
Et donc du coup, ça c'est très malin aussi, ils ont réussi à faire ça, et en fait c'est ça devient des sponsors, mais qui sont pas payés, quoi. Donc et c'est eux qui payent.
C'est un peu les VIP du casino, quoi, mais sur Reddit.
et on a vu ça avec Genshin Impact, sauf que eux du coup ils font des sponsors, mais
très malin.
Mais
j'ai une question qui me reste, que t'as teasé, c'est pourquoi est-ce que c'est prévu que ces jeux ils aient une fin si jamais ils sont si rentables que ça?
Et bien en fait j'ai découvert que c'est souvent des sociétés qui sont créées très rapidement pour être rentables très très vite. Parce qu'en fait, c'est pas d'une complexité fou et que tu peux faire plein de gacha games dans des univers différents. Mais qu'en fait, quasiment tout le temps, à un moment, le jeu, il arrêtera sa durée de vie au bout de 4, 5 ans. Et donc, en fait, parce que en fait, c'est juste, ça a gagné énormément d'argent et à un moment, le jeu devient un peu moins populaire et il faut cash out. Et donc, du coup, ce qui est atroce, c'est que ton investissement, entre guillemets, dans le jeu, à un moment, alors c'est pas un investissement, c'est de la perte d'argent, mais tu peux te dire que voilà, c'est un investissement dans mon divertissement et tout machin.
Enfin, ouais.
D'un coup, il se stoppe parce que c'est pas toi qui décides en fait. La société, elle ferme.
Tu ne possèdes rien qu'une petite ligne sur une base de données.
Exactement.
Sur le serveur de quelqu'un d'autre.
Et j'ai trouvé ça encore plus déprimant quand j'ai vu ça. Et il y a un autre truc qui m'a un peu déprimé. Enfin non, ça c'est plus rigolo en vrai. C'est quand le free to play va trop loin. J'avais lu un article de presse. Qui disait que dans le Diablo Immortal, pour avoir le full setup, il fallait payer 110 000 dollars. Et là, tu te dis à quel moment ils se sont dit c'est une bonne idée.
C'est-à-dire qu'ils ont prévu le coup. C'est ça qui est. C'est là où tu comprends le principe de la baleine, c'est que ils ont prévu que tu puisses monter aussi haut parce que cette personne existe peut-être.
Exactement. mais du coup, je trouvais
et
ça très marrant.
Elle existe, cette personne? Quelqu'un a payé cette somme?
Ça, je sais pas.
C'est pas dans l'article.
C'est quelqu'un dans le chat. Moi, je suis curieux, avant de conclure, mais est-ce que dans le chat, certains veulent nous partager, peut-être qu'ils ont dépensé plus de 100 balles dans des micro-transactions, si vous voulez nous partager, c'est pas une fierté, c'est qu'on va juger, c'est juste par curiosité voir voilà quel
pourcentage,
quelle quantité d'argent c'est possible d'atteindre et dans quel jeu.
Ok, bonjour, je ne suis pas dans le chat, mais je me permets d'intervenir.
Oui.
150 balles dans Pokémon Go.
Oh, pas mal.
Ok. Pas mal,
ils m'ont eu.
Ok, pas mal. 150 balles dans Pokémon Go. Ok. Non, intéressant.
Des centaines dans CSGO.
Plus de 1000 balles dans Summoner's Wars. Des centaines dans CSGO.
Ah, on a des baleines dans le chat?
Bah, attends, ça combien une baleine?
Oh, un pote, 10 000 balles.
Oh, un pote, 10 000 balles dans Rise of Kingdom.
Oh.
Ok, 130 euros sur plus de 6 ans sur un gacha game, ok.
Ça va, 130 euros sur 6 ans, c'est presque ok. Plus de 5 000 dollars dans AFK Arena.
Ouais, dès qu'on passe les 4 digits, c'est...
Ouais, ça commence à être quand même quelque chose.
Et tu vois, il y a quelqu'un qui dit, bah, si c'est pour 500 heures de plaisir... ah, son message y part, mais faut pas trop se sentir coupable. Il y a ça aussi, c'est que.
Oui, bien sûr.
Enfin, comme si t'es conscient.
Big up à celui qui a demandé si Tinder ça comptait.
Si t'es conscient que, tu vois, au lieu d'aller au resto ou.
Exactement. Tout comme tu peux aller au casino quelques fois de temps en temps et ne pas devoir aller en détox, quoi.
Et encore une fois, même si ça vous arrive, c'est pas vous les victimes. 10K balles. Dans fut. Oh,
si, c'est eux les victimes.
10K dans fut. C'est pas FIFA Ultimate Team, c'est ça
ouais, tu sais, les.
6000 euros.
Ouais. C'est le. Tu sais, il y a un. Un mode de jeu à FIFA où tu peux acheter des cartes.
C'est quand même impressionnant. Eh ben écoutez.
Donc, du coup, la question de fin, c'est est-ce que la Chine a raison de vouloir mettre en place une réglementation? Est-ce qu'ils vont revenir dessus aussi? On devrait faire pareil.
Parce que si la Chine a raison, tous les gens du chat ici n'auraient pas pu dépenser autant potentiellement.
Potentiellement. Après, ça joue principalement sur 2-3 mécanismes qui sont vraiment très pervers. Ouais, c'est la première transaction et le fait de revenir tous les jours. Ce qui en vrai se discute.
C'est le hook qui est moins. En fait, ils essaient juste de jouer sur ces mécanismes-là psychologiques, mais en fait, tu peux quand même toujours jouer au jeu. C'est moins addictif.
C'est ça.
Et je rappelle qu'en tant qu'entreprise, nous sommes une baleine également, puisque nous avons mis 280 euros dans Fruits.
Oui, mais c'était pour une vidéo, ok?
Bon, une excuse quand même.
Non, franchement, là, c'est des frais de société, voilà. C'est du consommable, comme on dit dans le milieu.
Et toi, c'est quoi ton avis, ça? Tu ne réponds pas à la question.
C'est compliqué. C'est compliqué. En vrai, potentiellement, oui, parce que on peut prendre ce sujet comme.
Moi, je trouve ça pas absurde. Si c'est le cas.
Comme on combat la cigarette, comme un problème de santé publique, on pourrait réglementer ça. Après, certains libertariens diront que, bah voilà, il faut laisser les entreprises privées faire ce qu'ils veulent. Moi, je trouve ça pas bête, honnêtement.
Comme pour le casino, en fait, Ouais, mais effectivement, ça me choque pas plus que ça. À partir du moment où on arrive sur la question de la santé.
Ouais. Et de l'addiction, quoi, tout simplement.
Voilà, ouais. Et donc, la perte de liberté, on peut se dire collectivement, ça, peut-être qu'on peut dire qu'on ne fait plus.
Mais il y a aussi les mêmes mécanismes comme ça dans les réseaux sociaux qui sont questionnés. Ouais. Sur, par exemple, TikTok, c'est un système qui est très addictif aussi de swiper sur des vidéos et des trucs comme ça. Et qu'au final, on commençait à se questionner sur la santé des jeunes. À ce moment-là, je trouve que c'est quand même important de se poser la question.
À ce moment-là, ce qu'a fait le Parti communiste chinois, c'est de réduire le temps maximum de TikTok à 40 minutes. Et après, ils ont fait une grosse sélection sur les contenus mis en avant sur la plateforme.
Ouais.
Et t'as des tutos pour devenir astronaute pendant que nous on a des danses.
Ouais.
Donc ouais.
Ils sont très forts sur TikTok.
C'est le voilà.
Le fait d'avoir scindé en deux leur appli. Masterclass.
Très intéressant, franchement, c'était vraiment, vraiment cool.
Ouais, écoute, trop bien. Mais encore une fois, moi, j'y connaissais rien et j'ai plusieurs fois halluciné de ce que j'ai découvert.
Comme quoi, la perversion est partout.
Et en vrai, moi, ça m'a pas donné l'envie, justement, mais je me suis dit, faut pas que je tombe dans le jeu. Parce qu'en vrai, je pourrais, enfin, tu vois, je suis humain, un truc comme Candy Crush, et je me dis, en fait, comme la cigarette, faut que je m'en tienne à l'écart, quoi. C'est plus dangereux que ça m'apporte du bien.
Maintenant que tu connais le mécanisme. Ouais. Ça t'a démoralisé.
C'est un peu ça.
T'a démotivé
Tu peux y jouer, mais comme tu l'as consciemment, tu vois.
Ou au moins, je sais comment ça fonctionne.
Tu te dis, non, je vais pas tomber là-dedans, et puis tu te dis.
Ouais, mais en même temps, franchement, mettre 99 centimes la première fois.
Non.
Non, tu vois. Franchement, alors, pour me faire avancer de 1000 milliards d'étapes dans le jeu,
Ouais, mais moi, la step, je trouve qu'elle est énorme au moment où on me demande mon numéro de carte bancaire.
Et je suis d'accord.
Au moment où je dois rentrer ma carte bancaire, je me dis
Et d'ailleurs, conseil qui donnait, désactiver par exemple le Face ID ou le paiement
Apple Pay.
Empreinte digitale.
Empreinte digitale sur Apple Pay ou Google Pay et devoir taper son mot de passe du compte. Il disait, en vrai, ça aide.
En fait, tu crées de la friction. Enfin, tu contres la psychologie par de la psychologie.
Exactement.
Très fort.
On va finir par inviter un psychologue.
Ouais, why not, franchement.
Franchement, sur des sujets comme ça, on a déjà eu le projet en vrai.
Ouais, carrément. Trop cool. J'espère que vous avez apprécié ces trois chroniques.
Tu sais qu'on finit l'émission à 21h, qui est normalement l'heure de fin de l'émission.
Exactement.
C'est incroyable.
Là, c'est l'émission chronométrée. J'espère que vous avez, en tout cas, découvert des choses avec nous. Si vous avez raté des morceaux de l'émission, tout cela sera disponible sur la chaîne YouTube, évidemment. Et sinon, vous pouvez follow cette chaîne Twitch. La prochaine émission, c'est dans 2 semaines, mercredi à 19h. Et sur ce, nous, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci, Tiffany et Mathieu.
Merci à vous.
Avec grand plaisir.
Et à la prochaine.
Bonne soirée.
Tchuss.
Tchuss.
Mom. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.